Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous qui nous rejoignez dans Tout pour investir, l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. Nous sommes à la radio, nous sommes à la télé, nous sommes sur le web. Et bonjour à vous qui nous écoutez en podcast, peut-être en dehors de notre pays à une autre heure du jour ou de la nuit. Le programme de notre émission, nous allons parler comme tous les jours immobilier. Depuis l'augmentation des prélèvements sociaux à 17,2% en 2018, la fiscalité des revenus fonciers est très lourde, vous le savez. Alors, fiscalité des loyers, agissez, c'est ce que va vous dire Stéphane Descartier, qui est dirigeant de SD Conseil et Formation, notre éditorialiste immobilier. Petit coup de gueule à suivre. Le question-réponse du jour portera sur 10 000 euros. Où placer 10 000 euros de liquidité avec des risques limités? Quel placement privilégier si on ne veut pas prendre de risques? Et que penser, par exemple, des six caves monétaires? C'est Christian Fontaine qui va répondre à ces questions du magazine Le Revenu. Ce sera dans 25 minutes. Et puis aujourd'hui, on investira dans les instruments de musique. On parlera d'un exceptionnel violon de Jean-Baptiste Huillaume. Peut-être que vous connaissez ce nom, c'est un des meilleurs luthiers. C'est un petit peu le Stradivarius français, un luthier français du 19e siècle, mais aussi un personnage clé de la lutherie. On parlera de violon, on parlera d'archer aussi. La France, qui est un endroit de trading des archers, essentiel pour faire sonner un violon différemment. La maison Agutz sera avec nous. Au programme, il y a vous. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Vous êtes assez nombreux à réagir sur le sujet PER. Vous pouvez m'écrire directement comme Thibaut qui nous demande si à 30 ans, ça vaut le coup d'avoir un PER. Vous pouvez aussi me joindre par email. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Il y a quelques temps, Hans nous demandait si ça ne serait pas préférable d'axer ses investissements sur les actions européennes en 2024 plutôt que sur les actions américaines. Eh bien, ça tombe bien. On va lui répondre dans quelques minutes dans l'œil de Goldman Sachs. D'ici 5 minutes, Lilia Pétavin, qui est stratégiste action chez Goldman Sachs, est avec Antoine depuis Euronext pour répondre à vos questions. Justement, nous partons à Euronext faire le point sur la séance en cours.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Antoine, on vous retrouve toujours avec un marché bien indécis, toujours indécis hein, depuis l'ouverture de la séance, malgré la pluie de résultats.
Oui, et c'est la baisse qui l'emporte hein, de peu, hein, moins 0,13%, en étant légère baisse à 8054 points, baisse un petit peu plus prononcée pour l'Eurostock 50 qui perd 0,49% et moins 0,28% pour le DAX à Francfort. C'est évidemment l'ensemble des résultats, des publications d'entreprises qui font l'actualité et qui animent un petit peu cette séance. Il faut dire qu'on a eu aussi des chiffres économiques, on a eu la croissance, on a eu l'inflation du côté européen, ça a provoqué une très légère tension sur les taux d'intérêt 10 ans, mais enfin rien de spécial, mais ça limite un petit peu la progression des indices et ça accroît un petit peu la prudence des investisseurs. Alors notez que c'est L'Oréal, hein, rien à voir avec les résultats, qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 1,32%. On est à 442,25€. On a eu Thales aussi ce matin, hein, du solide, avec un bon des commandes hein, d'ailleurs, qui est salué par le marché. Pour l'instant, le titre gagne 0,1%, 158,55€. Et puis le compartiment financier qui était bien inspiré avec des résultats très encourageants du côté de chez Santander, du côté d'HSBC. Et on a AXA qui gagne 0,96% à 3,2€ et BNP Paribas plus 0,1, 67,79€. À la baisse, quelques déceptions quand même. Stellantis qui perd 2,11%. On est à 22,73€ avec une baisse du chiffre d'affaires de 12%. Mais alors Stellantis qui est plutôt bien loti dans un secteur qui est vraiment vendu ce matin, et notamment Mercedes et Volkswagen qui constatent une baisse de plus de 20% de leurs bénéfices sur le premier trimestre. On sent que le secteur subit vraiment une passe difficile. Et puis autre secteur qui va pas bien, c'est l'aérien, avec avec l'annonce des pertes du côté de chez Lufthansa, mais aussi d'Air France KLM qui recule de 3,9% à 9,67 €. Et puis deux mouvements un petit peu hors normes. SES, l'opérateur satellite, moins 12,5%, 4,32 €. Hein, beaucoup de volatilité après les chiffres d'activité. En revanche, Vusion Group qui gagne 13,2% à 151,20 €. Avenant de son contrat avec Walmart, quand même 1 milliard d'euros en trésorerie. Le CAC 40, moins 0,13%, 8,054 points. Et l'euro, 1,0727 €. Lorraine.
Antoine, vous restez avec nous. Ça n'est pas votre histoire financière aujourd'hui. C'est l'œil de Goldman Sachs à suivre.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
C'est l'histoire d'Antoine et Lilia. Lilia Pétavin, stratégiste action chez Goldman, est avec vous depuis Euronext. Bonjour chère Lilia. On va parler action européenne. On va prendre le pouls avec vous. Allez-y tous les deux.
Ben oui, Lilia Pétavin, ben, bonjour tout d'abord.
Bonjour Antoine.
C'est vrai que vous aviez raison, hein, quand même, on a quand même une nette performance du côté des actions européennes, une nette surperformance par rapport à Wall Street. Vous en aviez déjà parlé lors de notre précédent rendez-vous. Quels arbitrages vous faites à ce stade sur la situation actuelle ?
Oui, je pense qu'une grande partie de ceci a été liée à la pression que nous avons eue à la hausse sur les taux d'intérêt américains et européens. C'est vrai que nous avons eu des surprises d'inflation à la hausse plus marquées aux États-Unis qu'en zone euro, notamment si je regarde les chiffres qui sont sortis ces derniers jours aux États-Unis comme en Espagne, en France, en zone euro. Et ça s'est ressenti dans le marché obligataire où on a vu des taux d'intérêt monter plus fortement aux États-Unis qu'en zone euro. Donc aujourd'hui, nous pensons que la BCE va être à même de baisser ses taux au mois de juin, sur le meeting de juin, alors que nous avons repoussé dans le temps la première baisse des taux de la Fed au mois de juillet, et nous ne sommes pas les seuls évidemment. Si j'écoute ce que les investisseurs disent, certains imaginent qu'il pourrait ne pas y avoir de baisse des taux de la Fed cette année, voire même une hausse de taux. Ce n'est pas notre vue, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Donc ça a été plutôt positif pour l'Europe. Il y a deux autres facteurs qui m'intéressent aussi. C'est un, les prix du pétrole ont été plus élevés qu'attendu. Et deux, l'euro a été plus faible. Donc ça, c'est quelque chose de positif pour les profits des entreprises européennes qui sont internationales et dans lesquelles il y a une grosse composante liée au marché de l'énergie. J'estime que ça pourrait rajouter 2 à 3 points de pourcentage sur la croissance des profits du Stoxx Europe 600 cette année. Donc plutôt positif.
Alors, il y a aussi cette pluie de résultats qui anime un petit peu la cote hein, depuis une dizaine de jours. Qu'est-ce que vous en pensez à ce stade ? Comment vous les arbitrez ?
Donc, aux États-Unis, on a déjà la moitié du marché qui a posté ses résultats. La saison s'annonce bien puisque ces résultats postés ont été 9% au-dessus des attentes du consensus. Dans l'absolu, nous sommes sur un ralentissement de la croissance au T1 par rapport au T4 puisque le consensus attend une croissance de 3% au T1 sur le S&P, croissance des profits, j'entends, versus 8% au T4. Mais la surprise, elle, reste aussi bonne que ces derniers trimestres. Et en Europe, nous sommes un peu moins avancé dans la saison des résultats, mais ça s'annonce a priori comme une bonne saison également, puisque la moyenne des résultats postés surprennent à la hausse de 5%. Et puis si je regarde à l'intérieur des secteurs, on voit que certains secteurs décotés, notamment les banques, sont en train de poster de très bons résultats. Et j'ajouterais aussi que si je regarde ce que j'appelle le sentiment, donc le nombre d'analystes qui révisent à la hausse leurs anticipations versus ceux qui révisent à la baisse, ce sentiment est devenu positif en Europe aujourd'hui. C'est la seule région du monde dans laquelle le sentiment est devenu positif avec le Japon juste derrière.
Un cas particulier. Et alors c'est vrai, vous parliez des banques, dernière question, vous êtes plutôt à l'achat sur les banques. Et c'est vrai qu'on a des performances encourageantes entre BNP Paribas dernièrement, Santander ce matin, HSBC. On attend Crédit Agricole et Société Générale en fin de semaine. Donc vous continuez à être positif là-dessus.
Nous continuons à être positifs. La question des investisseurs qui est récurrente, c'est pourquoi êtes-vous positif alors que nous sommes à la veille d'un cycle
baisse de taux.
Évidemment, c'est quelque chose de négatif sur les marges des banques. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde a repoussé dans le temps les premières baisses de taux depuis le début de l'année. Donc les banques elles-mêmes, si nous regardons leurs hypothèses de taux d'intérêt pour 2024, elles ont été révisées à la hausse ces derniers mois. Même chose pour les analystes. Donc je pense que ça va continuer de générer des révisions à la hausse de anticipation de profit qui vont venir soutenir le marché bancaire. Et puis, il n'y a pas que les marges, il y a aussi les volumes. La croissance des volumes attendus est relativement bonne. Elle est en général très corrélée aux indicateurs d'activité, notamment les indicateurs des directeurs d'achat. Et on a vu en zone euro les PMI des services qui ont bien décollé. Ce matin, nous avons eu la croissance du T1 en zone euro qui est sortie à 30 points de base, donc au-dessus du consensus, c'est également positif. Et le dernier point que j'ajouterais qui est important, c'est que même si vous n'avez pas de croissance de prix au niveau de ces actions-là, vous avez un rendement offert aux investisseurs qui est aux alentours de 8%. Ce sont des entreprises qui font énormément de rachats d'actions en ce moment, qui offrent des dividendes généreux. Et c'est donc un avantage dans un marché où, l'air de rien, la croissance attendue du reste du marché reste assez timide. Nous attendons une croissance des profits de 3% cette année. Donc les investisseurs, nous le savons, ont tendance à se reporter sur les secteurs et les entreprises qui font pas mal de rachats d'actions et de dividendes.
Voilà, les banques à surveiller donc ces prochains mois. Merci Lydia Pétava.
Voilà, Goldman Sachs toujours à l'achat sur les banques. Explication de cette position. Merci beaucoup à tous les deux. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application BFM Business. Vous restez branchés, on continue à s'occuper de vos finances personnelles. On a parlé marché, maintenant nous allons parler immobilier. À tout de suite.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO avec Marie Cœur de Roy. Bonjour chère Marie.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Nous ne sommes pas seuls, notre éditorialiste nous a rejoint, Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine, bonjour Marie, bonjour à tous.
Éditorialiste parce que vous allez encore nous pousser un coup de gueule. Vous êtes, le reste de la journée, dirigeant de SD Conseil et Formation. Et avec vous, on va parler aujourd'hui fiscalité des loyers. C'est un appel à l'action que vous allez faire sur ce plateau, cher Stéphane.
Oui, un appel à l'action parce que effectivement les loyers en nu sont traités de la pire des façons. On atteint des niveaux stratosphériques, notamment depuis l'augmentation de la CSG, enfin des prélèvements sociaux, donc en 2018. Donc, ils sont passés à 17,2%, puisque les revenus fonciers, une fois qu'on a déduit ces charges, le cas échéant, ces intérêts d'emprunt, eh bien ça vient dans votre revenu imposable global, donc ça va dépendre, votre imposition va dépendre de votre tranche marginale d'imposition, mais va supporter, vos revenus fonciers vont supporter votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux à 17,2, ce qui fait que même pour la première tranche d'imposition à 11%, donc vous êtes tout de suite à 11 plus 17,2, donc 28,2%, donc un petit peu en dessous de la flat tax. Vous savez que certains militent notamment pour que les revenus foncier soit comme les revenus financiers en général.
Donc, ça n'arrivera pas, ça.
À la flat tax.
A priori,
bon, il y a assez peu
Sinon, on n'aurait pas eu la création de l'impôt sur la fortune immobilière.
Il y a assez peu de chance. Il y a assez peu de chance, effectivement. On doit bien, effectivement, s'en rendre compte aujourd'hui. Mais c'est vrai que dès la deuxième tranche, là, pour le coup, vous êtes bien au-delà de la flat tax, puisque dès la deuxième tranche à 30% de TMI, plus 17,2, vous êtes à 47,2%, pour ne pas dire la moitié, à 41%. Vous êtes à 17, plus 17,2, donc 58,2 pour pas dire 60%. Et alors, on atteint des sommets avec la dernière tranche à 45, plus 17,2, on est à 62,2, plus la taxe foncière, qui est déductible, mais il en reste une partie.
Et hors IFI.
Plus l'IFI, le cas échéant.
Non, mais je vous interromps. Est-ce qu'on a une idée? Parce que c'est vrai que le profil du propriétaire bailleur, il est difficile à faire. C'est-à-dire que dans l'imaginaire populaire, le propriétaire bailleur, c'est un multipropriétaire qui gagne très, très bien sa vie. Enfin, voilà. On sait que ce n'est pas forcément tout le temps le cas.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'on a quand même un ordre d'idée du taux marginal d'imposition, en moyenne, des propriétaires bailleurs en France?
Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, les gens qui arrivent à faire, après la résidence principale, à faire un investissement locatif, ils sont bien souvent à 30% de tranche marginale d'imposition.
On est plutôt autour de 30%.
On est plutôt autour de 30%. De la même façon, les retraités, puisqu'il y a beaucoup de retraités qui sont effectivement bailleurs, les retraités n'ont pas une grosse retraite, c'est sûr, mais comme ils n'ont plus d'enfants, donc ils sont un ou deux dans le foyer fiscal, donc ils sont vite, effectivement, pareil, à 30%
de TMI. Et donc, ça veut dire qu'en moyenne, bon an, mal an, si je prends vos calculs, on est autour de 47% de fiscalité en moyenne pour un propriétaire bailleur sur ses revenus locatifs.
Tout à fait.
Et c'est là où vous nous dites qu'il faut agir.
Oui, parce qu'il y a des solutions quand même, malgré tout. Il y a des solutions donc pour pouvoir baisser ses revenus fonciers, enfin la fiscalité de ses revenus fonciers. Il y a des solutions qui peuvent paraître simples, qui ne coûtent rien, et notamment la première, qui est d'organiser, en fin de compte, un transfert de vos loyers. Vous êtes surfiscalisé sur vos loyers. Vous organisez un transfert de vos loyers sur vos enfants, qui, par définition, si par exemple ils sont étudiants, ils finissent leurs études, ils vont démarrer dans la vie active, souvent ils n'ont pas de revenus, donc ça pourra constituer ces loyers que vous leur transférez, ça pourra constituer l'essentiel, voire la totalité de leurs revenus, donc auquel cas ils ne seront pas imposés.
Ça veut dire quoi ? C'est une donation en fait ?
Oui.
Alors, je donne les loyers que je suis censé percevoir, moi, Marie, à mes enfants.
Le terme technique, c'est donation temporaire d'usufruit. Parce qu'effectivement,
ça veut dire quoi, du coup ?
Parce qu'effectivement, c'est temporaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir décider de transférer les loyers sur vos enfants pour les aider quand ils finissent leurs études, par exemple, ou lorsqu'ils sont étudiants. Donc, vous leur transférez les loyers sur la durée que vous décidez, pendant 4, 5, 6 ans. Et à ce moment-là, effectivement, vous n'avez plus, vous, vos loyers, mais c'est particulièrement intéressant lorsque vous aidez vos enfants. Parce que bien souvent, bah, vos enfants étudiants, bah, c'est vous qui allez les aider pour qu'ils puissent manger, se loger,
etc. Mais du coup, ça veut dire quoi, techniquement, Stéphane ? Parce que ça m'intéresse. De fait.
Oui, bien
alors,
sûr.
Même si je ne suis pas propriétaire bailleur, mais qui sait un jour peut-être.
Mais ça viendra, vos enfants vont grandir.
Ça veut dire concrètement que je leur verse l'argent sur le compte bancaire, j'ai aucune
fiscalité. Ça veut dire que vous organisez tout simplement avec un notaire, parce que c'est quand même un peu officiel, ce transfert de loyer, donc c'est inscrit à un moment donné, ils ont l'usufruit des loyers pour une durée, voilà, donc l'usufruit des loyers, donc pour une durée définie de 4-5 ans, comme vous décidez, parce que effectivement, au bout d'un moment, bah, vous serez bien content de voir revenir ces loyers pour vous, notamment lorsque vous-même, vous allez être à la retraite, etc. Donc vous leur donnez temporairement les loyers, mais surtout, l'avantage pour vous, c'est que pendant cette période, bah, vous les aiderez plus, vous les aiderez moins, plutôt que de leur donner 700 ou 800 euros sur de l'argent qui a déjà été fiscalisé
autrement.
Chaque mois.
Les aide autrement.
Vous leur transférez les loyers, voilà, vous les aidez autrement.
Mais cet argent, surtout, il doit être déclaré.
Oui, il est déclaré.
Les enfants doivent le déclarer.
Alors, vos enfants les déclarent. Alors, petite quand même subtilité, il faut qu'ils soient, bien entendu, sortis de votre foyer fiscal.
Oui, oui.
Il faut les sortir de votre foyer fiscal et ensuite, eux seront imposés sur les loyers, mais s'ils n'ont que ça comme revenu, ils n'auront que les prélèvements sociaux. Ça ne va pas du tout rentrer dans leur imposition.
Mais les 17-2 ne disparaissent jamais.
Non, les 17-2, de toute façon, vos enfants les paieront, etc. Donc c'est quand même très intéressant et ça ne coûte quasiment rien, puisque, alors ça a quand même un coût, le coût d'une donation, dès qu'on donne quelque chose, il faut payer. Donc le coût, c'est 23% de la valeur de la pleine propriété. Donc si vous donnez un bien d'une valeur, enfin, l'usufruit d'un bien d'une valeur de 100 000 euros, ça va coûter 23 000 euros, 200 000 euros, 46 000 euros.
Ah ouais,
mais ça rentre, oui, mais ça rentre dans les 100 000 euros que vous pouvez donner tous les 15 ans par parent,
mais
par enfant.
Coup,
donc en fait,
zéro,
ça ne coûte rien.
Donc ça peut être zéro.
C'est zéro.
Okay,
c'est juste les émoluments du notaire, les quelques centaines d'euros de frais du notaire pour les inscriptions, etc., ce transfert d'usufruit temporaire.
On réfléchit à comment agir sur la fiscalité de vos loyers. La première solution que Stéphane nous propose, c'est un transfert de loyer aux enfants. Techniquement, juridiquement, ça s'appelle une donation temporaire d'usufruit. On s'engage pour une durée prédéfinie à transférer les loyers qu'on reçoit à ses enfants. Il faut que vos enfants soient sortis de votre régime
votre foyer fiscal.
Et ça coûte donc pas une paille, mais ça coûte une somme,
23% de la pleine propriété,
qui peut être déduite de cette donation
tous
les 100 ans.
Ça mange un peu vos 100 000 euros.
C'est pas d'IFI.
Et ça sort de l'IFI, puisque c'est l'usufruitier, si vous êtes redevable de l'IFI, c'est l'usufruitier qui paye l'IFI.
Qui paiera l'IFI.
Et donc, on imagine que votre enfant n'a pas...
Je vous aime, les enfants.
On imagine que votre enfant a moins d'1,3 million de patrimoine immobilier. Donc, ce patrimoine-là, pendant la donation temporaire du fruit, sort en plus de l'IFI. Cerise sur le gâteau.
Première solution concrète. Vous venez avec une deuxième solution qui va plaire à Marie, faire des travaux.
Voilà, alors la deuxième solution qui est bien connue...
Mais il dit ça un peu coinsouille quand même.
Non, pourquoi ?
Allez-y, déroulez.
La deuxième solution qui est bien connue, c'est de faire des travaux. Puisque les travaux, attention, pas d'agrandissement, pas de reconstruction, mais tout ce qui est amélioration, rénovation, isolation, l'électricité, la peinture, etc. Donc tout ça rentre dans les travaux déductibles. Donc quand vous allez faire des travaux sur votre bien, il ne faut pas hésiter à aller faire des travaux. Quand vous allez faire des travaux sur votre bien, ça va manger donc votre revenu foncier de l'année. Et s'il y en reste, en général il en reste, si vous faites 50 ou 60 000 euros de travaux, vous allez passer 10 700 euros l'année où vous faites les travaux, et ensuite vous allez mettre 35 ou 40 000 euros en réserve de déficit, et cette réserve va venir vous manger vos revenus fonciers pendant 4, 5, 6 ans. Donc ça, alors, mais ça, bien sûr, il faut que votre bien nécessite des travaux.
Donc si on achète une passoire thermique. Là, on en revient à la passion de Marie. Voilà.
Alors, sur votre patrimoine existant, si vous devez faire des travaux, bah, c'est bien, faites-les. Surtout, n'hésitez pas. Et s'il n'y a pas de bien à faire sur le bien, de travaux à faire, pardon, sur le bien dont vous êtes propriétaire, vous pouvez aussi réaliser une nouvelle opération avec beaucoup de travaux, puisque cette deuxième opération va pouvoir venir manger les revenus fonciers de votre première opération, puisque les revenus fonciers se cumulent, d'accord, se fusionnent. Donc le déficit d'une nouvelle opération va pouvoir venir manger les revenus fonciers de votre première opération. Et là, il faut doser les travaux suivant le besoin en déficit que vous avez sur une longue période, puisque vous avez, quand vous faites des travaux, vous avez 10 ans pour imputer vos travaux restants sur vos revenus fonciers. Donc c'est aussi une très bonne solution.
Créer un déficit pour baisser la fiscalité, c'est intéressant, mais Marie, vous n'allez pas dire le contraire, gérer des travaux, c'est très chronophage.
C'est très chronophage, ouais. Mais de toute manière, c'est obligatoire maintenant, donc du coup, on fait d'une pierre deux coups, hein, puis en plus de ça, non mais pour le coup, les propriétaires bailleurs, ça fait partie des obligations, au-delà de la fiscalité très lourde, ça fait partie de leurs nouvelles obligations, donc ils doivent rénover. En plus de ça, bah, ils ont aussi la possibilité d'avoir des aides, ça on le rappelle, hein, MaPrimeRénov, quand ils ont reboosté, calibrer MaPrimeRénov, changer, parce que c'était un crédit d'impôt auparavant, donc on a modifié un peu tout ce qui était le crédit d'impôt de transition énergétique fut un temps et devenu MaPrimeRénov, qui est accessible aussi et aux copros et aux propriétaires bailleurs.
Et aux bailleurs.
C'est important de le dire.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Stéphane, vous ne partirez pas sans nous avoir donné une troisième piste pour que nous agissions pour baisser la fiscalité de l'immobilier. Racontez-nous.
Alors, la troisième piste, c'est effectivement de changer de régime.
Je vais être très en colère là.
Que vous êtes, attention, on y vient. Je vais me faire tenser par Marie encore.
Alors, déroulez d'abord avant de faire tenser.
Oui, ça va. Donc, troisième solution, donc c'est de changer de régime. C'est-à-dire que vous êtes en location nue et vous allez pouvoir effectivement estimer que votre bien correspond aussi. Attention, il faut que votre bien corresponde à une location meublée. Donc vous avez un studio, vous avez un T2, vous dites, bon, voilà, je redonne 40%, 60% de mes loyers en impôts, SCG, prélèvements sociaux. Donc je change de régime. Alors, à la faveur d'un changement de locataire, bien sûr. On ne peut pas, avec un locataire en place, lui dire, bon, maintenant c'est un bail meublé, etc. Ça ne fonctionne pas. Mais à la faveur d'un changement de locataire, vous meublez votre appartement et vous basculez en meublé. Et en meublé, bien sûr, à l'amortissement. Et l'amortissement du mobilier sur 5-7 ans et de l'immobilier sur de longues périodes, sur 30 ans, va vous annuler globalement votre fiscalité. Si vous n'avez pas d'intérêt d'emprunt à déduire, ça vous annule votre fiscalité pour 10, 12 ans, 15 ans. Si vous avez des intérêts d'emprunt en plus à déduire encore, alors ça peut vous annuler votre fiscalité en meublé à l'amortissement sur des périodes de 18, 20 ans. Avec le mécanisme des reports. Donc là aussi, c'est très intéressant. Mais il faut que le bien soit adapté au meublé. Hein, attention, si vous avez un 3 pièces, un 4 pièces, ça fonctionne pas. Il y a un tout petit marché ou une maison. Il y a un marché qui va pas forcément fonctionner. Donc il faut que le bien, effectivement, soit adapté au meublé, que le marché ne soit pas saturé également meublé, parce que on a eu souvent l'occasion de le dire avec Marie, il y a des marchés qui saturent en meublé. Le régime est tellement intéressant que tout le monde se met à faire du meublé. Donc il faut vérifier la profondeur. Est-ce que ce marché-là, il y a encore de la place pour du meublé? Donc il faut vérifier tout ça.
Ouais, mais Stéphane, justement, quand on s'était interrogé aussi sur la profondeur de marché, la réalité, c'est qu'il y aura toujours une demande. Regardez Paris, qui est quand même inondé de meublé. Je ne parle même pas du meublé saisonnier, hein. Je ne parle même pas du meublé touristique. Hein. Il est inondé de meublé parce qu'effectivement, il y a des avantages tenants et trébuchants pour les propriétaires bailleurs. Le fait est qu'il y a plein de locataires qui ne cherchent pas de meublé, mais qui, faute d'avoir le choix, vont finalement opter pour le meublé. Et puis tant pis si je me paye le garde-meuble pour garder mes trucs. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, même si ça ne répond pas à la demande, le problème aujourd'hui, la crise du logement, elle est telle. Alors, quelque part, c'est un bon tips hein, pour les propriétaires bailleurs qui nous écoutent. C'est-à-dire, faites du meublé dans les villes tendues. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour le prendre.
Oui.
Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un sujet d'intérêt général derrière pour les locataires aussi, hein?
Alors après, on pourrait se dire aussi qu'il faut aligner et harmoniser la location nue et la location meublée. Pourquoi tout le monde va vers le meublé? Parce que qui veut moins de souplesse et plus d'impôts?
Exactement.
Donc voilà.
Le
donc
sujet,
c'est
il est aussi dans le fiscal, on en revient.
Le sujet, il est effectivement aussi que les loyers nus sont tellement taxés que effectivement, l'ensemble des bailleurs ont cette tendance à vouloir se tourner vers le meublé. Alors une autre astuce aussi, si votre enfin astuce, on va voir qu'il y a aussi des gros problèmes, mais une autre piste pour ceux qui effectivement ont par exemple un bien qui n'est pas adapté au meublé. Si vous avez un 3 pièces, un 4 pièces, il n'y a pas de marché pour le meublé, etc. Vous pouvez aussi basculer à l'impôt société.
Oh, ça va pas vous
C'est-à-dire choisir effectivement de sortir des revenus fonciers et d'aller à l'impôt société. Si vous avez une SCI, vous la basculez à l'IS, qu'on appelle la SCI à l'IS. Et à ce moment-là, comme en meublé, vous amortissez. Mmh. Et là, de la même façon, vous annulez votre impôt sur des longues périodes. Mais attention à l'impôt société, on est en régime donc société, donc on a une plus-value société. Donc, pour dire les choses clairement, on est massacré à la plus-value lorsqu'on veut vendre ce bien.
Il faut être sûr de ne jamais vouloir.
Et
on
ne
peut pas changer en cours de route juste avant la revente.
Non, ce serait trop facile. Donc il faut être sûr de jamais revendre, mais il y a deux choses de sûr hein, dans la vie, la mort et les impôts, comme disait Benjamin Franklin. Donc parfois les gens me disent, ah mais moi si j'avais gardé tous les biens dont je me suis dit celui-là je ne le revendrai jamais, je serais beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il se passe toujours des choses qui n'étaient pas prévues, donc attention à ça. Donc c'est intéressant, alors si on est sûr de jamais revendre, il faut aussi faire attention de ne pas avoir d'enfants, parce que si vous êtes sûr de vendre, vos enfants 9 fois sur 10 ils vont vendre pour s'acheter leur résidence principale ou monter une affaire ou que sais-je. Donc la SCI à l'IS, c'est bien si vous n'avez pas d'enfants ou si vous n'aimez pas vos enfants. Si vous voulez, en quelque sorte, les déshériter au profit de l'État. Donc ça fonctionne. Donc la SCI à l'IS, si on n'a pas d'enfants ou si on veut les déshériter au profit de l'État, c'est pas mal.
Voilà, Stéphane Descartier qui vous aide à agir sur la fiscalité de vos loyers. Dans tous les cas, vous aimez vos enfants, eh bien vous transférez votre loyer à vos enfants avec une donation temporaire d'usufruit. Vous ne les aimez pas, mais vous voulez aussi alléger votre fiscalité. Vous basculez en SCI. Soumis à l'IS très sérieusement. Non, voilà, mais c'est important de réfléchir à ces moyens parce que quand on passe du temps sur la fiscalité, on trouve des solutions.
Ouais.
On n'a pas tous un Stéphane Descartier.
Et d'ailleurs, juste, on profite que Stéphane soit là, il revient à la fin du mois de mai, donc dans un petit mois, et on vous prépare un vendredi juste avant la deadline pour les déclats d'impôts, où justement, on va essayer de faire le tour de toutes les questions qu'on peut se poser à l'aube de la...
Un spécial fiscalité, on va s'éclater encore.
Sexy. Non, avec Stéphane Descartier, on arrive à rendre ça super accessible.
On essaye d'expliquer simplement des choses qui sont très compliquées. En fait.
Et on sera avec Guillaume Erard du Figaro, donc ça sera forcément passionnant.
On s'occupe de vos impôts dans Tout pour investir. L'équipe est mobilisée pour rendre cette période fiscale un peu moins ennuyeuse et surtout vous aider à mieux gérer votre argent, parce que payer les impôts, c'est important pour faire tourner notre pays, mais payer la juste dose, c'est mieux. Nicolas Dose, vous direz la même chose d'ailleurs au quotidien. Je vous précise que cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application BFM. Les bons plans de Stéphane Descartier sur agir sur vos loyers, la fiscalité de vos loyers. Nous, on se retrouve demain, Marie, pour parler immobilier. Et vous l'avez entendu, on s'occupe de vos impôts. Donc si vous avez des questions, même des choses assez spécifiques sur lesquelles vous butez un petit peu, vous pouvez nous adresser vos problèmes ou vos difficultés. On essaye d'y répondre en équipe. L'adresse, c'est direct@bfmbusiness.fr. On marque une rapide publicité. Et après, on s'occupe de vos liquidités. Vous avez peut-être 10 000 euros en liquidité. Ne les laissez surtout pas sur votre concurrent, s'il vous plaît, je vous en prie. Nous allons vous donner d'autres idées de placement sans risque. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de vos finances personnelles dans cette émission en direct tous les jours, bien aidée par d'autres rédactions, notamment celle du Revenu, tous les mardis avec nous. Bonjour Christian Fontaine.
Bonjour à tous.
Directeur délégué de la rédaction du Revenu avec nous pour réfléchir à vos liquidités. Vous avez peut-être 10 000 euros. 10 000 euros à placer quelque part, mais surtout à placer en ne prenant pas de risque ou le moins de risque possible. Christian, quelles sont les règles de base quand on a cette jolie petite somme qui peut servir à plein de choses.
Oui, alors tout à l'heure, vous disiez effectivement, la première bourde à éviter, c'est de laisser dormir cet argent sur son compte courant. La deuxième bourde, c'est de vouloir placer cet argent comme son voisin. Et la troisième bourde, c'est toujours procrastiner, c'est remettre donc alors l'investissement à demain. Les règles d'or, en fait, il y en a deux. Le meilleur investissement pour vous, ça va dépendre de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à immobiliser cet argent. Et puis, et ça, on ne le dit pas assez, le meilleur meilleur placement pour vous, ça ne dépend pas que de raisons, de facteurs techniques, de considérations techniques, ça dépend aussi de vos goûts. Il y a la moitié, donc alors des Français, des auditeurs, des téléspectateurs qui sont plus bourse, placement financier, l'autre moitié davantage immobilier. Donc c'est très important en matière de placement, de finances personnelles, lorsque vous avez la chance d'avoir une prime, une petite donation, un héritage, de tenir compte de vos goûts en matière de placement. On ne peut pas dire que telle ou telle classe d'actifs soit donc par nature supérieure à l'autre. Ça dépend de vos préférences. Donc il y en a qui sont plus PER, il y en a d'autres qui sont plus bourse. Et donc si vous avez 10 000 euros de liquidité à placer en avril 2024, il faut tenir compte de ces considérations.
On va continuer à articuler une réflexion sur cette somme de 10 000 euros, mais la chose importante, c'est que on ne veut pas prendre de risque.
Ben, ça, c'est pas un critère dans l'absolu, c'est le critère numéro un des Français. Lorsque vous leur demandez, leur posez la question, quel est le premier critère de choix d'un bon placement pour vous, c'est l'absence de risque qui arrive en numéro un avant même la performance, et c'est essentiel. Et donc forcément, si vous ne voulez prendre aucun risque, ça m'amène à vous parler bien sûr des livrets réglementés, livret A, LDDS, livret d'épargne populaire, qui peut ou prou quand même, en tout cas jusqu'à l'année prochaine, donc pour les livrets accessibles à tous, rapporte tout de même 3%, ce qui n'est pas négligeable. On est au-dessus de l'inflation qui en mars était légèrement au-dessus de 2% en rythme annuel. Surtout que ces placements populaires, ben, ils sont sans risque, garantie de l'État. Ils sont sans impôts. Ils sont sans frais. Ils sont sans prélèvements sociaux. Donc ça fait quand même, je dirais, si en face de ça vous mettez une rentabilité qui en ce moment est supérieure à l'inflation, ben ça fait quand même pas mal d'atouts pour ces placements. Alors la question qui se pose, c'est que c'est le livret A, l'encours donc des Français sur le livret A peu ou prou a doublé en 20 ans. Donc ça signifie que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sont au plafond. Donc la question qui se pose, c'est que si j'ai 10 000 euros à placer, bien sûr il faut tenir compte également des placements que vous avez déjà. Si votre livret A est au plafond, si votre LDDS est au plafond, ben il faut, je dirais, prendre la direction des autres placements liquides qui vous permettent de récupérer votre argent à tout moment et sans risque. On pense bien sûr aux livrets fiscalisés, hein, qui sont plutôt proposés par des établissements 100% en ligne. Les banques à réseau, les banques traditionnelles ne sont pas forcément très compétitives sur cette niche de produits. Vous pouvez obtenir du 3-4%, donc c'est plutôt satisfaisant. Attention, c'est avant impôts et prélèvements sociaux là-dessus, donc peu ou prou, vous devez défalquer et réduire une trentaine de pourcents. Et puis vous avez aussi les comptes à terme, et ça c'est une autre famille de placements pour vos liquidités sur lesquels les banques traditionnelles sont généralement assez compétitives. Le taux de rémunération, mais ça dépend la durée donc de l'engagement. Un contrat à terme, c'est un document contractuel que vous signez avec votre banque et qui s'engage à rémunérer votre argent à un taux convenu à l'avance en fonction de la durée de blocage de votre argent. Contrairement au livret fiscalisé, si vous retirez votre argent avant l'échéance du placement, eh ben vous aurez une pénalité. Mais le bonus par rapport au livret fiscalisé, c'est que comme il s'agit d'un contrat, le taux est garanti à l'avance, même si la Banque Centrale, par exemple, la BCE, annonce une baisse ou une évolution de ces taux au mois de juin. Donc ça, c'est un élément clé. Et puis dans cette grande famille donc des placements monétaires, il reste bien sûr les SICAV monétaires.
Alors que penser des SICAV monétaires qu'on appelle aussi SICAV de trésorerie?
Voilà. Ben, que penser, c'est qu'aujourd'hui, c'est un placement qui a, avec la baisse des taux, a été fortement délaissé. À une époque, souvenez-vous, hein, il rapportait même moins que les frais de gestion. Donc c'était un taux de rendement négatif. Aujourd'hui, le taux, il est plus que positif puisqu'il tourne autour des 4%, donc moins 30% de prélèvements fiscaux et sociaux.
On peut dire qu'il retrouve des couleurs avec l'inflation.
Ben, il retrouve, on ne peut plus, des couleurs avec nos couleurs grasses, donc au niveau actuel des taux d'intérêt. Alors, est-ce que ça va perdurer ou non, ça en verra. Mais en tout cas, c'était un placement vedette du début des années 90 qui redevient donc alors à la mode et qui est de nouveau intéressant.
On est sur le court terme.
Alors, on est C'est un placement qui peut convenir sur des périodes plus longues, mais c'est un placement qui coche toutes les cases pour un placement de courte durée, parce que il est sans risque, parce que il est avec des frais raisonnables et une fiscalité compétitive. Tout à l'heure, on parlait de l'étude de Norcia sur les placements les plus utilisés par les Français au premier trimestre. Ben, il y avait les SICAV monétaires. Donc, c'est vrai que c'est un placement qui répond à la fois aux besoins de sécurité des Français et aux besoins de performance et de rendement, puisqu'il rapporte autour de 4%. Donc, on est largement au-dessus de l'inflation. Ça fait clairement partie donc, des placements vedettes en ce début d'année 2024.
Voilà, les SICAV monétaires. On rappelle, une SICAV, c'est une société d'investissement à capital variable. C'est bien parfois de rappeler ce que signifient les acronymes.
Bon. Un panier de titres monétaires qui peut ou prou, c'est un panier qui progresse chaque jour un tout petit peu.
Si on veut prendre un tout petit peu de risque.
Si vous voulez prendre un tout petit peu de risque avec vos 10 000 euros, ça, je ne vais pas vous surprendre. Donc, vous ouvrez...
Tout en Bitcoin.
Alors, tout sur le Bitcoin, pourquoi pas? Donc, alors, à condition d'accepter la volatilité du placement, puis on verra, on posera la question tout à l'heure à Amaury pour voir ce qu'il va nous dire. J'aurais tendance à dire tout sur un contrat d'assurance vie de bonne facture en appliquant la fameuse répartition gagnante du revenu, d'ailleurs assez proche de la répartition adoptée par les Français en ce début d'année. 60% sur le fonds en euros à capital garanti et 40% sur des unités de compte investies en bourse. Alors pourquoi c'est la répartition un peu gagnante? Parce qu'en fait, si vous maintenez ce type de répartition pendant plusieurs années, pendant une bonne dizaine d'années, peu ou prou, vous ne pouvez pas perdre d'argent. Et puisqu'en fait, la poche sans risque va se valoriser donc, à hauteur du montant de votre investissement initial. Et puis c'est surtout la répartition gagnante, ça devrait vous assurer sur longue période un gain annuel moyen entre 4 et 5% avec une inflation à 2%. Ça vous fait du 2 ou 3% de gain net de hausse des prix par an. Donc c'est plutôt très satisfaisant. Alors vous allez me dire, oui mais ça on est dans le domaine des placements financiers. Vous êtes peut-être un peu moins placement financier et un peu plus placement immobilier. Vous avez 10 000 euros à placer. Bien sûr, donc c'est un ticket qui est assez qui est significatif, qui vous permet d'investir dans la pierre papier, des foncières cotées en bourse particulièrement dévalorisées en ce moment, des SCPI, des EPCI. Et puis, parce que les Français aiment bien aussi l'immobilier physique, 10 000 euros, c'est largement suffisant pour investir dans une cave, dans des grandes villes qui rapportent autour de 10%. Voilà. Et puis, je vais aussi vous parler de parking. Parce que pourquoi vous parlez de parking? Parce que lorsque vous signez un bail avec un locataire d'un parking qui n'est pas lié à un logement, en fait vous fixez librement les conditions du contrat, c'est-à-dire le montant du loyer, les conditions de revalorisation, les conditions de garantie et les conditions de résiliation. Donc vous voyez, vous échappez au carcan réglementaire de la loi de 89 qui régit les relations entre les bailleurs et les propriétaires, vous échappez à l'encadrement des loyers, vous échappez à toutes les contraintes énergétiques qu'on impose aujourd'hui aux bailleurs qui louent un logement. Donc oui, louer un parking, plutôt être propriétaire d'un parking et ensuite le donner en location, mais ça rapporte gros, on va dire entre 6 et 8% et vous n'avez pas peu de problèmes d'impayés, peu de problèmes de dégradation. Dans les grandes villes de province, toujours le montant d'investissement de départ, 10 000 euros, ça peut suffire pour investir dans un parking. À Paris, Paris intramuros, ce n'est pas suffisant, il faut plutôt tout compter entre 20 et 40 000 euros, voire bien davantage. Mm-hmm. En première couronne parisienne, tout dépend des villes, mais dans l'ouest parisien, c'est plutôt entre 20 et 25 000. Mais rien ne vous empêche, là, vous faites une petite opération, tout pour investir, on est dans une émission patrimoniale, donc vous pouvez, emprunter une partie de l'argent nécessaire à vos investissements et vous profitez de l'effet de levier crédit. Pour, gagner davantage, même si dans un premier temps, donc les loyers versés par le locataire de votre parking, qui peuvent être deux d'ailleurs en cas d'une moto, vous servira à rembourser à rembourser la banque. Il faut bien voir que si c'est l'immobilier qui vous intéresse, vous avez donc effectivement les caves, les parkings, et puis vous avez aussi quand même dans un certain nombre de villes de province, d'après la dernière étude de meilleurs agents, dans des villes comme Limoges, dans des villes comme Pau de mémoire, même Poitiers ou Brest, pour 10 000 euros d'apport, vous pouvez acheter un studio qui va s'auto-financer. Donc vous allez compléter avec un crédit sur 20 ans, et le loyer que vous encaissez chaque mois sera suffisant pour rembourser la banque, sera peu ou prou égal à la mensualité du prêt accordé par la banque pour compléter cet investissement. Donc vous voyez qu'avec 10 000 euros de liquidité, on peut faire des tas de choses, donc plus ou moins risquées pour effectivement, en fonction de vos goûts, en fonction, je dirais, de la période pendant laquelle vous voulez investir cet argent et du gain potentiel.
On a parlé un petit peu de crypto tout à l'heure en disant que ça pouvait être une piste de diversification. Moi, vous savez, je vais vous parler de montres. Avec 10 000 euros, on peut investir dans une jolie montre déjà.
Ben bien sûr, avec 10 000 euros, on peut se faire plaisir. On peut acheter une première montre de collection, neuve ou d'occasion. Vous avez toutes les marques éponymes à partir du moment où offre des tickets, nos couleurs d'entrée en dessous de 10 000 euros. Et puis à partir du moment où c'est des montres, je dirais, qui se revendent sur le marché secondaire, entre guillemets, ou aux enchères, 10 000 euros, c'est largement suffisant pour se faire plaisir à soi-même ou offrir une première montre de collection à un proche ou à une proche, bien sûr.
Bon, on aurait pu parler du vin aussi, il y a de quoi se constituer une jolie cave pour le futur et le court terme.
Alors on aurait d'autant plus mieux fait, ou on peut d'autant plus parler du vin, que c'est un sujet qui va revenir d'actualité, puisque au mois de juin, va commencer la commercialisation des vins en primeur, hein, donc c'est-à-dire des vins qui auront été, des raisins qui auront été récoltés en août et en septembre de l'année dernière. Donc c'est un vin qui va être commercialisé alors qu'il est encore en barrique, qui est encore en cours d'élevage, mais vous allez pouvoir l'acheter dès le mois de juin. C'est surtout un mode de commercialisation pour les Bordeaux. Les bouteilles vous seront livrées que dans 2 ans, mais ce mode de commercialisation de l'achat de vin en primeur vous permet, je dirais, d'acheter des grands châteaux souvent dans une belle caisse en bois, et puis ça vous évite de devoir faire la course avec votre caddie dans les foires au vin à la rentrée. C'est aussi un mode de commercialisation qui vous permet en fait chaque année d'acheter les grands crus d'un même château, et ensuite d'organiser avec vos amis, avec vos proches, des verticales. C'est-à-dire consiste à goûter un même vin, mais d'une année différente. Et sinon, notamment dans la grande distribution, il y a très peu de suivi au niveau des référencements, donc c'est pas si facile que ça d'acheter chaque année le même château. Vous avez entièrement raison, avec 10 000 euros, on peut se faire plaisir, on peut investir, on peut donner du sens à son épargne, et il y a des groupements fonciers forestiers, il y a des groupements fonciers viticoles, où l'investissement dans des bouteilles en primeur, les relevés de prix effectués chaque année par le revenu montrent que cela permet de réaliser une bonne affaire. Et en fait, le seul petit bémol, c'est qu'il faut plutôt investir dans des bouteilles qui ont... Plus vous investissez dans des bouteilles qui sont chères, plus potentiellement vous pouvez gagner. Et bien sûr, il faut laisser le temps au temps. C'est pas en investissant dans du Bordeaux primeur 2023, donc en juin, c'est pas en le revendant donc dans 2 ou 3 ans que vous allez réaliser une plus-value, mais c'est plutôt en le revendant dans 10, 15 ou 20 ans.
Une question que j'aurais pu vous poser plus tôt, c'est Clémence qui nous a écrit. Elle pose une question sur le PEA, mais je trouve qu'elle se prête bien cette question à la discussion qu'on a pour conclure. Elle souhaiterait, comme conseiller dans cette émission, investir régulièrement de petites sommes sur son PEA. Mais elle nous dit, chaque versement induit des frais. À partir de quelle somme, quels frais prélevés par opération peut-on estimer que le coût en vaut la peine si on souhaite investir tous les mois? Si on a ces 10 000 euros justement et qu'on veut faire de l'investissement programmé, est-ce qu'il y a une somme optimale à verser par mois pour pas un sujet qui vous est cher, se faire trop taxer, trop de frais plutôt.
Alors, il y a plusieurs sujets. En fait, l'avantage d'investir un tout petit peu chaque mois, c'est d'éviter donc, alors, d'investir dans un point haut. Donc, vous investissez, par exemple, pour votre auditrice ou téléspectatrice, si elle a 10 000 euros, elle pourrait très bien investir 1 000 euros en bourse par mois au cours des 10 prochains mois. Ensuite, il y a la question des frais. Ben, tout dépend, le support d'investissement dans lequel elle va investir. Et puis, tout dépend de la tarification de son intermédiaire. Mm. Peu ou prou, dans l'absolu, il faut qu'elle ne dépasse pas 0,1 à 0,15% de frais de courtage. Alors, il peut y avoir, selon les établissements financiers, des minimums fixes. Et c'est vrai que, mais il y a de plus en plus d'établissements financiers, notamment des courtiers 100% en ligne, qui ne pratiquent pas de minimum. Donc, il est aujourd'hui, compte tenu des tarifications actuellement proposées par les banques en ligne ou même par les grandes banques à réseau, investir une petite somme chaque mois, si on prend ces précautions, ne coûte pas plus cher qu'investir une grosse somme d'un coup.
Voilà Clémence, j'espère qu'on vous a répondu. En tout cas, les conclusions, c'est si vous avez 10 000 euros, ne mettez pas vos 10 000 euros d'un coup sur un PEA, programmez vos investissements sur les prochains mois, ne laissez pas ces 10 000 euros sur votre compte courant, ne faites pas comme votre voisin ou votre voisine, et puis ne procrastinez pas.
Voilà, il y a des si vous avez 10 000 euros à placer, il y a des tas de choses à faire pour gagner 4, 5, 6% en fonction, je dirais, de vos goûts en matière de placement et niveau de risque que vous acceptez de prendre.
Christian Fontaine, directeur délégué de la rédaction du Revenu, avec nous tous les mardis dans Tout pour investir et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, en podcast et en replay, cette séquence est à retrouver indéfiniment sur notre site web et notre application. Vous restez avec nous, on va pas avoir assez avec 10 000 euros pour se l'offrir, mais nous allons parler d'un violon, d'une estimation de 160 000 euros. Plein d'autres choses à dire à part son prix sur ce violon. Il arrive dans quelques secondes avec la Maison Agut. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Je vous le fais miroiter, ce violon, à défaut de vous le faire entendre. Nous allons parler d'un exceptionnel violon avec vous, Hector Chemel. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le spécialiste des instruments de musique et des archers dans la maison Agut. Et vous êtes venu avec un exceptionnel violon, il faut le dire, fabriqué par, j'allais dire le Stradivarius français, mais on va l'appeler par son nom tout de suite, par Jean-Baptiste Guillaume, un des meilleurs luthiers français du 19e siècle. Décrivez-nous ce violon pour ceux qui nous écoutent en podcast et en replay, et puis pour ceux qui, évidemment, nous regardent aussi.
Tout à fait. Donc, c'est un exceptionnel violon en tout point. Tout d'abord, il convient peut-être de s'attarder quelques instants sur son auteur. Donc, effectivement, comme vous dites, souvent surnommé le Stradivarius français, c'est le plus grand luthier français du 19e qui a grandement œuvré pour la renommée, le rayonnement des écoles françaises de lutherie, d'archeterie. C'était un ouvrier de tout premier plan, qui avait un soin du détail, une minutie exceptionnelle et également un très grand homme d'affaires. Donc, il a su, en quelques années, faire de son atelier le principal à Paris, mais également en Europe. Plus de 3000 instruments sont sortis de ses ateliers. C'était aussi un grand innovateur, un grand inventeur. Il a travaillé avec les plus grands solistes, les plus grands musiciens de son temps. On peut citer par exemple Paganini, que tout le monde connaît, Henri Fiotan, Eugène Isaïe. Et c'était quelqu'un qui était aussi fasciné par les instruments anciens, notamment italiens, les écoles et notamment de Crémone. Évidemment, tout le monde connaît Stradivarius, Guarnerius. Il vouait un véritable culte, notamment pour Stradivarius, et s'est attaché à chercher à reproduire les qualités exceptionnelles de ses instruments. Donc ici, parlons un petit peu plus précisément de ce violon, qu'on peut peut-être montrer aux téléspectateurs et décrire un peu pour les auditeurs. Donc, pourquoi il est exceptionnel? Tout d'abord, par sa facture, le grand soin qui est apporté. On peut parler par exemple des coins, des filets.
Restez en face du micro quand même.
Magnifiquement enroulé, de son beau vernis orangé brun, des matériaux utilisés, l'épicéa, l'érable, l'ébène pour la touche. Donc cet instrument, il est signé à l'intérieur. Il a un paraphe de l'auteur, il a des marques au fer, et c'est aussi un instrument qui a une sonorité remarquable, très chaleureuse.
Mettez-nous puissante. Un tout petit coup de corde sur l'abîmé.
Ça ne lui rend pas vraiment hommage, mais en tout cas, croyez-moi, c'est un instrument qui sonne remarquablement bien, en plus d'être beau, et ce qui en fait un instrument très prisé des musiciens.
Vous le savez, on parle d'investissement dans cette émission. Ce n'est pas la première fois que vous êtes venu. Ce sujet de la lutherie nous est cher parce que la France est une grande patrie de la lutherie. Vous nous avez parlé de cet homme d'affaires, de cet innovateur et de ce luthier Jean-Baptiste Guillaume. C'est intéressant pour ceux qui nous écoutent parce que un instrument de musique, c'est définitivement un investissement. Je voudrais qu'on s'adresse dans les quelques minutes qui nous restent peut-être aux entreprises qui se diraient qu'est-ce que je peux faire d'une trésorerie et la rendre utile. Et bien peut-être investir dans un instrument parce qu'au-delà des aspects fiscaux, et bien cet instrument, quand on est une entreprise, on peut le prêter à un artiste ou une artiste.
Tout à fait. Alors, c'est très important de rappeler que là, on a un des principaux auteurs de la lutherie, française, mais aussi de l'histoire de la lutherie. Donc, ça en fait un placement très pertinent, d'autant que c'est de sa création à nos jours, ça a été joué par les plus grands musiciens, ça l'est toujours aujourd'hui. Donc, déjà, ça, c'est une chose importante. Donc, effectivement, pour les entreprises, il y a un dispositif qui est prévu jusqu'au 31 décembre 2025 qui permet d'acheter un instrument de musique et d'obtenir une déduction d'impôt. Donc comment ça fonctionne ? Cette déduction d'impôt, elle est basée sur le prix d'achat hors taxe de l'instrument. Elle va être divisée en 5 par égal, donc sur 5 années, donc 20% par an. Il y a un plafond annuel qui est fixé à 20 000 euros. Ou 0,5% hors taxe du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et comme vous le disiez, et là c'est là que ça intéresse particulièrement le violoniste que je suis, c'est que une des principales conditions pour accéder à ce dispositif, c'est évidemment de prêter l'instrument à un artiste interprète ou à un grand étudiant, en tout cas qu'il soit joué.
Qu'il soit joué, parce que ça sert d'abord à ça, les instruments de musique, évidemment. Pardon, je me sens toujours obligée un peu de m'excuser quand on reçoit des experts comme vous, de parler d'argent, mais c'est une manière de les faire vivre, ces instruments. On n'a pas dit, mais ce violon avec lequel vous êtes venu, il a été fait à Paris en 1871, et on voit, il continue à être joué, à être utilisé. C'est intéressant de voir aussi l'évolution d'un point de vue placement de ces objets, puisque les violons, les instruments de musique et aussi les archers, il faudrait faire tout un autre sujet sur les archers, connaissent une croissance intéressante. On parle de l'ordre de 3-5% par an.
Oui, absolument. Donc, ce sont des placements tout à fait pertinents. On a observé de belles progressions, effectivement, dans le temps. Il faut bien évidemment rappeler que cela concerne surtout les grands auteurs. Et pour effectivement les plus grands auteurs, on peut citer Stradivarius, Guarnerius, Amati. Là, on a parfois des augmentations annuelles de l'ordre de 10%. Donc effectivement, ce qui en fait des placements tout à fait intéressants.
Merci beaucoup Hector d'avoir partagé votre passion. Vous êtes vous-même musicien professionnel et aujourd'hui vous êtes spécialiste des instruments de musique et des archers en plus auprès de la maison Agut. Hector Chemel, cette séquence est à retrouver en podcast et en replay comme l'ensemble de nos émissions. C'est la fin de celle-ci. Demain, nous serons en best-of car Euronext est fermé. Vous nous excuserez, on vous a préparé une très jolie émission très bien ficelée avec Amaury Tonquédec qui nous rejoint parce qu'on a parlé de vous toute l'émission. Amaury, le Bitcoin se négocie autour de 63 624 dollars à l'heure où on se parle. Vous prenez les manettes de BFM Crypto le club à 15h. De quoi allez-vous parler tout à l'heure?
Eh bien, on va parler des blockchains zombies. On va voir un peu qu'est-ce que c'est, quel est ce concept qui se cache derrière, et puis de la narrative des casinos Web3. Alors, Jean-Marc Daniel n'est pas là. Voilà, peut-être que ça l'aurait fait réagir.
Pour lui, il serait au bord de la WC à vous.
Voilà, c'est ça. Mais voilà, on va parler un peu de cette narrative qui se développe, et on va voir en quoi ça consiste, mais qu'il y a aussi des risques derrière tout cela.
Jean-Marc est au pays, du côté de Bordeaux. Mais Sandra Gandoin est là, heureusement. Vous prenez les manettes, chère Sandra, dans quelques minutes pour, avec vous, la libre antenne de l'économie. Quel est le programme de l'émission ?
Beaucoup de sujets, comme d'habitude. Bonjour Lorraine. Comment rester innovant et compétitif ? Comment faire face aux risques juridiques ? On va parler de France Travail, des entreprises et de recrutement. Et cette question du jour, vos mots de passe sont-ils assez sécurisés ? En gros, est-ce que vous avez conscience du risque cyber ? Eh bien, on va poser toutes ces questions à nos experts. Et vous nous posez vos questions à notre adresse avec vous. bfmbusiness.fr. On y répond pendant toute cette heure jusqu'à 13h.
Ça démarre dans quelques secondes. Merci à tous pour votre écoute. Vous restez sur BFM Business. Il est 11h57.
Tout pour investir sur BFM Business.